à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frontaine Chronicles, épisode numéro 19. Je suis Benjamin Ozano et je co-présente toujours ce podcast avec Denis Souron. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ?
Bonjour Benjamin, ça va plutôt bien, même si je suis un peu pris du nez et de la gorge.
Ne vous inquiétez pas, c'est toujours Denis. Et aujourd'hui, on va parler du DevFest 2023. On va revenir sur quelques conférences qui nous ont plu, mais cette fois-ci, en fait, on va pas forcément revenir que sur des conférences front, il y en avait quand même pas mal, mais plus sur des conférences qui valent aussi le détour.
Et on découvre comme ça des nouvelles thématiques ou des nouvelles choses en fait, qui nous aident aussi à mieux travailler, etc. Voilà. C'est quand même toujours bien de savoir quelques concepts cloud, quelques concepts UX, etc. Parce que en fait, mine de rien, ça va nous servir et à échanger avec nos interlocuteurs et aussi des fois à se débloquer tout seul.
Donc on a à peu près, je crois si je compte bien, 6 conférences qu'on souhaite vous partager, en tout cas vous recommander puisqu'on a pu assister à celle-ci. Et le reste, bien évidemment, on vous fera une toute petite sélection des confs qu'on n'a pas pu voir mais qu'on regardera en replay justement puisque aujourd'hui vous avez la possibilité de revoir toutes les conférences en replay. On vous mettra le lien évidemment dans les notes de l'émission. Mais avant toute chose, on va refaire un petit retour sur ce que c'est que le DevFest. Alors DevFest Nantes, ça fait plus de 10 ans en fait que cet événement est fait par une équipe de bénévoles, le GDG de Nantes. Cette année, ça s'est déroulé du 19 au 20 octobre 2023, donc sur un jeudi et un vendredi. Et le thème de cette année était le cinéma. J'ai d'ailleurs trouvé les stands beaucoup plus inspirés cette année.
C'est ça. C'est qu'en fait, le thème en lui-même n'est pas forcément mieux ou moins bien, mais c'était peut-être plus facile aussi pour les entreprises de trouver plein d'animations, plein de déco. On a vu du Harry Potter, on a vu du Star Wars, on a vu plein de choses, évidemment, de la pop culture, mais on a vu aussi 2-3 autres thèmes. Je crois que j'ai vu du Sherlock Holmes ou des choses comme ça, donc des choses de niche, et je trouvais ça vraiment sympa parce que ça donnait une touche vraiment sexy en fait au stand.
Le jeu un peu qu'on retrouvait sur un stand sur 3, c'était aussi les quiz sur Kahoot, et il y a des stands qui ont été un peu plus loin. On a pu faire un escape game avec Denis justement sur le thème d'Harry Potter qui était sympa. Au moins il y a eu de la réflexion, il y a eu du travail, il y a eu du storytelling, donc c'était assez sympa. En tout cas c'est bon.
Ah oui, on a joué.
Alors on a un peu gagné mais pas des gros lots, mais c'était quand même cool. Et aussi, attention, nouveauté qui n'est pas des moindres, pas d'éco cup cette année, pas de, non plus de tote bag à l'entrée. On avait traditionnellement un petit sac de goodies, mais évidemment, 2023 rime aussi avec aujourd'hui écologie et justement réutilisation des choses que l'on a déjà. Moi, je ne compte pas la quantité d'effectivement d'éco cup que j'ai chez moi. Je pense que Denis, c'est pareil pour toi. Peut-être que tu as fait le ménage sur le sujet, mais il y a une époque où on en avait plein avec les événements.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que quand c'est ton premier événement et tout ça, t'en as peut-être pas. Mais au global, mine de rien, vu le nombre de participants, en fait, c'est des milliers d'éco-cups en fait, qui ne sont pas produits ou plutôt pas achetés. Pareil, le tote bag, ça, c'est un peu plus utile, etc. Mais on garde quand même le t-shirt. On garde quand même un goodies assez fort pour chaque édition. On n'enlève pas tous les symboles, mais on a un fort engagement avec de la sobriété là-dessus. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Pareil, sur les stands aussi, ça fait plusieurs années où moins en moins de cochonneries.
Et du coup, le lieu de ce DevFest, c'est toujours la Cité des Congrès. On a quasiment, je crois, on a rempli toutes les salles avec les talks cette année. 3500 participants, 71 conférences. Avec 4 tracks en parallèle, donc vous comprendrez bien que c'est compliqué aussi de tout faire. Et si on ajoute à ça les workshops, les coding labs, c'est aussi vite 2 heures en fait de monopoliser sur 2 confs finalement potentiels qu'on aurait pu voir.
Ouais, donc c'est pour ça nous on n'a pas fait de workshop. Bon, on en fait très rarement. On avait fait un, je crois que c'était en 2017, je sais pas si tu te souviens. Il était génial. C'était CSS Grid. Ça venait de sortir. On avait les paillettes dans les yeux. On était comme des gamins. C'était vraiment trop trop cool. Mais ouais, je voulais revenir, ouais, la Cité des Congrès, de toute façon, le lieu à chaque fois, il est top, pas mal de salles. On sait aussi que ça permet, avec les différentes tailles de salles, d'avoir des audiences différentes. Voilà, les très gros speakers ou les sujets vraiment qui vont ramener la foule. Là, on a 2 grandes salles avec le grand auditorium et puis...
ouais, t'as la salle Titan.
La salle Titan et la salle Jules Verne. Alors après, c'est ce qui est donné sur le plan du DevFest. Je ne sais pas si dans la Cité des Congrès, ça s'appelle pareil.
C'est un autre nom, je crois, ouais.
On peut remarquer, ceci dit, que des fois, il y a quelques petits sujets qui finalement ramènent quand même pas mal de monde. Et on a les petites salles qui des fois bah, finissent un peu pleines. J'ai pas trop vécu cette édition parce que moi j'ai fait beaucoup les deux grandes salles. Mais je me souviens que les autres années, des fois, ça, on finissait un peu coincé. Je te propose, Benjamin, qu'on enchaîne avec les quelques conférences qu'on recommande. Il y en a une, de toute façon, avec le titre. C'est difficile de ne pas la recommander. C'était une conférence qui parlait de l'ordinateur qui a ramené l'humanité sur la Lune.
Salle pleine.
Voilà, salle pleine, évidemment. La plus grande salle est salle pleine. Donc là, évidemment, c'est une conférence qui est quand même plutôt intéressante parce que, en fait, on va investiguer avec les moyens de l'époque. Donc, il y a une remise en contexte qui est assez marquée et du coup, je trouve qu'il est plutôt bienvenu parce que nous, on a tout qui marche aujourd'hui. On a des puissances de calcul qui sont folles. En 1969, ce n'était pas forcément le cas. Et pour le coup, moi, c'est une conférence qui m'a plutôt marqué parce que je trouvais quand même la thématique très intéressante.
Et ça, c'est vraiment une conférence comme on aime les avoir au DevFest. C'est pour ça que le DevFest existe, c'est pour avoir ce genre d'expérience. J'ai trouvé qu'il manquait un tout petit peu de storytelling. Des fois, c'était un peu technique, ça allait assez loin. Mais vraiment, c'est vraiment une super conf à voir, quoi. On va enchaîner avec l'ordinateur 8 bits. Non, pardon, après l'ordinateur 8 bits, parce que le speaker dont on va parler, Olivier Hubert, il était venu l'année dernière faire une conférence sur j'ai créé un ordinateur 8 bits, je suis reparti de la base du transistor. Puis il avait en live créé son premier ordinateur 8 bits, et cette année il est revenu et il a créé une petite carte VGA sur un breadboard. Il a tellement d'engouement qu'il vous emporte dans votre histoire et vous avez tout de suite envie de tester vous aussi chez vous après. Hein.
C'est ça qui est énorme. C'est bluffant aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a toute la technicité, on a tout. Et donc, là, c'est magique. On a notre télé, on la branche en HDMI, ça marche. Waouh ! On arrive, je ne sais pas moi, au boulot, on branche notre écran externe, ça marche. Et lui, il arrive avec ses breadboards. Donc, c'est les petites planches où on branchait les diodes, si vous vous souvenez, pour la physique, là, les TP de physique. Et en fait, il branche des fils là-dedans, avec les bonnes résistances, avec les bons microcontrôleurs.
Ouais,
et puis, il arrive à faire s'allumer un écran VGA. Et quand vous regarderez la conf, vous verrez quel écran VGA il arrive à allumer. Et on a été un peu surpris.
On va enchaîner avec du front-end incroyable mais vrai. Fini les apps, pensée libre avec NX. Donc là, c'était avec Younes Jaidi, qui est le CTO de Marmicode. Moi, je n'ai pas appris beaucoup de choses, on ne va pas se le cacher. NX, côté front-end, on a forcément entendu parler et trouvé quelqu'un dans notre entourage qui en a fait. Et du coup, il nous invite dans ce monde-là. On part de la base, vous avez des besoins, et NX est là pour vous accompagner. Il indique que NX est vraiment un compagnon pour vous aider à coder. C'est par exemple, vous êtes sur un monorepo, vous avez plusieurs projets qui doivent être dépendants les uns des autres. C'est compliqué de gérer potentiellement des dépendances cycliques, hein. On est tous tombés là-dessus, eh bien NX peut venir justement vous aider sur ça. Qui peut compiler quoi? Qui peut être injecté où? À l'aide d'aide directement dans votre IDE, ou tout simplement à l'aide de graph. Bon, il le dit mieux que moi, hein, bien sûr. Hein. C'est... Là, je paraphrase un peu le pitch, mais c'est ça, c'est que pourquoi NX, c'est intéressant pour votre projet dès demain, sans qu'il y ait beaucoup de modifications dans votre projet. La première marche, elle est pas grosse, parce que derrière, en fait, c'est pour faire ce qu'on appelle une adoption progressive de l'outil. Vous prenez ce dont vous avez besoin.
Ouais, c'est ça, puis...
Voilà. Je crois que Denis, tu n'as pas été
la
voir.
Si. J'ai été la voir celle-là. Et en fait, en plus, tu disais pour le front-end, mais non seulement ce n'est pas que le front, mais en plus, ce n'est pas que le JS. Mm-hmm. Donc au début, NX a commencé fortement inspiré par Angular, voire même Angular CLI. Et donc, dès côté Angular CLI, quand on a commencé à faire des workspaces, des choses comme ça, des choses un peu plus poussées, il y a des gens qui se sont dit, ça serait pas mal en fait, d'avoir des générateurs, d'avoir des exécuteurs de scripts et des choses comme ça, de l'organisation, de la structuration de projets avec des libs, etc. Et donc, NX a démarré là-dessus. Donc, alors, je ne crois pas que ce soit un fork vraiment d'Angular CLI, mais ça a été fortement inspiré en termes d'approche. Et en fait, maintenant, c'est disponible pour autre chose que du JavaScript, autre chose que du front. Et voilà, donc l'idée, c'est on sait qu'on peut avoir du code en commun, on sait qu'on peut avoir des applications qui grossissent. Peut-être qu'on ne veut pas forcément toujours faire du micro front-end ou faire des choses très sophistiquées. Et donc, bah, en fait, on va faire notre application et par contre, les domaines, on va les découper et on va mettre ça dans des libres qui vont avoir des responsabilités très définies. Voilà, libre de gestion d'utilisateur, la libre d'authentification, la libre de gestion des produits, la libre de gestion du tunnel d'achat, par exemple, si on fait du e-commerce ou des choses comme ça. On enchaîne avec une autre conf qu'on aime bien parce que bon, c'est aussi les copains, hein. On en profite, on a des connaissances, bah, on va voir un peu le travail qu'ils font et on essaye aussi de faire des feedbacks pour que ce soit top pour tout le monde. Donc la suivante du coup, c'est Angular Signal qui est faite par Benjamin Legrand. En vrai, la conf, elle est bien pour deux raisons. Premier, c'est évidemment le titre. Si vous voulez savoir plus sur les signaux en Angular, bah, voilà, vous avez notre podcast et puis vous avez cette conférence-là. Puis vous avez évidemment plein de sources autrement sur Internet. Mais la première partie de la conférence est très très bien construite parce que en fait, il va expliquer en fait vraiment pourquoi on a besoin de ça et comment ça fonctionne. Pour moi, le gros point fort, il est là-dedans, c'est vraiment l'aspect didactique, quoi. Là, vous allez apprendre des problématiques de rendu front sur des SPA et rien que pour ça, ça vaut le coup.
Et avec le bon ton, je trouve que la justesse du quickie était parfaite et on ressort quand même de cette conf en mode bah, c'est bien, mais tu veux pas en faire une plus longue hein, tu veux pas aller plus loin. Donc, avec plaisir, s'il en fait une en allant plus loin dans les choses, ça peut être vraiment cool. Et je pense que ça peut être un cas d'école, hein, parce que là, on va commencer vraiment à utiliser tout ce qui est Signals. Autant avoir les bonnes connaissances et les bonnes pratiques tout de suite.
Je te laisse nous parler un peu de compression web.
Oui. Alors, je vais aller rapide sur celle-ci parce que, en fait, vous connaissez tous les fichiers zip. Voilà, ils font la blague hein, pendant la conférence. Donc, on voit en fait que nos navigateurs aujourd'hui, dès que vous faites un call HTTP, le navigateur compresse et décompresse des choses sans que nous, on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas magique. C'est comme si on passait notre temps, comme ils le disent, à plier nos t-shirts et à les déplier. Donc, non seulement la compression, elle est partout dans le web, mais il y a plein de subtilités qui peuvent nous échapper. Donc, ils reviennent à la base. D'où ça vient la compression? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Jusqu'à des algorithmes qui sont assez puissants, comme bah, le Gzip et le Brotli. Brotli, je ne connaissais pas du tout. Et ils expliquent la différence entre Gzip et Brotli. Et toutes les techniques sous-jacentes. Donc, c'est vachement intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que la compression web, on parle surtout de la performance, les paquets plus petits, les choses comme ça, mais on parle assez rarement, finalement, de la compression. Et oui, j'ai pas dit les auteurs, c'est Antoine Caron et Hubert Sablonnière. Voilà.
Voilà, Hubert, que personnellement, j'avais vu l'année dernière sur la conf de Cache HTTP. Le speaker, en fait, il explique, il fait vraiment le tour du sujet. Bon, là, ils étaient deux, mais ils font le tour du sujet. Donc, vous avez une partie un peu historique, vous avez une partie plutôt technique, vous avez une partie plutôt d'exemple, une partie... voilà. Vous avez un peu de tout, en fait. Vous avez de la théorie, de la pratique, de l'histoire, les opportunités, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour la suite, etc. Et pour le coup, encore une conf où on sort de là et on a appris plein de trucs. Et comme tu le disais, hein, moi, c'est ce qu'on attend, en fait, du DevFest, c'est... On va voir des conférences et on a appris des trucs. Et pour finir, un peu de WebAssembly. Alors WebAssembly, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une manière en fait de générer des applications qui vont tourner sur un navigateur, bah, une base de navigateur. Et en fait, ça va être une espèce de code natif. Bon, j'essaie de vulgariser, mais en fait, c'est parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais ça va vous permettre d'avoir des exécutions plus proches de l'exécution native sur un navigateur. Et grosso modo, tout ce qui est jeux vidéo aujourd'hui sur un navigateur, c'est quasiment tous du WebAssembly. Et du coup, là, la conf, c'est WebAssembly Beyond the Browser. Et donc, du coup, c'est le WebAssembly aujourd'hui. Il y a des opportunités pour que ça sorte en fait du navigateur et que ça soit plus comme, par exemple, comme un programme Java avec une JVM. Donc aujourd'hui, quand vous avez un programme Java, ou même ça peut être du Kotlin ou autre chose, ou du Scala, mais vous avez votre JVM qui est votre VM d'exécution en fait, et vous allez mettre votre application là-dessus et qui va avoir plutôt des bonnes perfs. Et ben au niveau WebAssembly, on est en train de faire à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir des VM assez bas niveau qui vont faire tourner du code WebAssembly. Et l'avantage de tout ça, c'est que en fait vous pouvez vous abstraire tout comme Java. Vous n'avez pas besoin de vous soucier en fait de. Vous n'avez pas besoin de savoir si vous êtes sur Mac, Linux, Windows. Là, vous faites juste votre application et voilà. Donc ça vous permet un peu de voir un peu qu'est-ce qui se passe à côté du WebAssembly. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt prometteur.
J'ai également été la voir. Moi, de mon côté, du coup, c'est vrai que on est très vite, assez technique dans la conf. Et je dirais même assez technique au level. C'est-à-dire que si déjà, vous ne savez pas ce que c'est que le WebAssembly, vous risquez d'être perdu assez rapidement. Même si vous comprenez où est-ce qu'on va, vous n'aurez peut-être pas toutes les clés pour comprendre pourquoi on y va et pourquoi c'est intéressant. Et nous arrivons presque à la fin de ce podcast, mais avant, Denis, on va s'exprimer sur l'avis global sur cette édition 2023 et la comparer aux éditions précédentes. Tu commences, je commence, comme tu veux.
Eh bien, je vais commencer. Eh bien, en fait, comme d'hab, l'orga, elle est folle. Il y a des thématiques très très fortes qui sont gérées et qui ne vont pas forcément de soi. On a parlé en introduction de l'écologie, il faut aussi parler de l'inclusivité, des endroits safe dans l'événement. Ça devrait presque être la norme, mais c'est le temps que les mœurs évoluent et tout ça aussi. Les confs, en vrai, il y avait pas mal de choix, pas mal de thèmes différents. J'avais peur au début de ne pas avoir beaucoup de front, mais il y a 2-3 choses qui ont bougé au niveau de la programmation, et au final, il y en avait quand même un peu. Et après, sinon, toujours le même plaisir de retrouver les gens qu'on connaît, donc ça, ceux qui nous écoutent, par exemple, tout ça. Donc ça a été toujours un vrai plaisir. Et pour toi ?
Pareil, un plaisir partagé. Cette édition 2023, toujours cool de se dire qu'on va au DevFest pendant 2 jours. Faut aussi préciser que c'était un peu les Hunger Games, plus que les autres années. C'était compliqué, il y avait beaucoup de déçus. Beaucoup de problèmes entre guillemets de commandes sur la première vague. Quand je dis problème de commandes, c'est qu'en fait, souvent les entreprises se mettent à plusieurs et commandent par pack de 5, de 6, de 10, ce qui du coup est compliqué dans un panier où au bout d'une minute tout est vendu. Bien sûr, ceux qui vont au Hellfest savent déjà la douleur que c'est de commander. Et du coup, la deuxième vague, c'était assez marrant puisque je crois qu'elle était à 23h. C'était plus que 2 places plutôt que 5. Mais effectivement, difficile de contenter tout le monde. Alors, il y en a qui ont proposé des modes de loterie. Je pense qu'il n'y a pas de système idéal pour le sujet. À part le fait d'agrandir le DevFest et d'agrandir le nombre de personnes. Et malheureusement, on est contraint aujourd'hui par la Cité des Congrès. Puis là, au niveau de la sécurité, déjà, on avait 3500 personnes sur ces 2 jours. Je voulais revenir aussi sur le côté écologie, c'est très bien ce qui est goodies et tout. C'est vrai que plus jeune, entre guillemets, moi j'aimais bien récupérer plein de goodies, des boîtes et tout. Enfin, puis quand tu vieillis, tu te dis qu'en fait, c'est pas très utile, l'empreinte carbone que t'as, d'avoir 50 éco-cups alors que tu vis en couple. Donc du coup, tu te dis que c'est pas plus mal que cette année, on se calme un peu sur les goodies. Mais du coup, là je vais avoir un avis un peu salé, c'est que forcément, du coup, ça fait moins d'argent investi puisque pas d'éco-cups, pas de tote bag. Et il y a un point de douleur, moi je trouve, chaque année au DevFest, c'est la nourriture. En fait, c'est surtout la nourriture des midis, pas la soirée qui est plutôt cool niveau bouffe, mais surtout le midi. En fait, cette année, j'ai vu qu'il y avait un effort, qu'on montrait un petit peu les allergènes et la composition des plats, mais c'était pas partout. Et je trouve globalement que la nourriture proposée est pas folle.
Ouais, c'est très sophistiqué, ouais.
Et ainsi de suite. Alors, je comprends que c'est compliqué d'organiser tout ça, mais c'est vrai que je me suis dit, si on gagne un peu d'argent sur l'éco-cup et les tote bags, peut-être qu'on peut améliorer aussi la bouffe le midi. Donc, à côté de ça, le défait, c'est vraiment super cool d'y aller. Les confs, c'est béton. Cette année, je n'ai pas eu de déception particulière sur les attentes. Les stands, c'était super cool. Les boîtes ont bien joué le jeu. Une super ambiance. Donc, moi, vraiment très content et vivement 2024, du coup.
Et ouais, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de la nourriture du midi, mais en fait, moi, c'est plus le manque d'étiquettes, en fait. Juste des petites étiquettes pratiques, parce que suivant les différents régimes alimentaires, les allergies, etc.
Bien sûr.
Moi, par exemple, j'ai des allergies. En fait, je suis obligé de faire attention à chaque chose que je vais prendre. Mais quand il y a 10, 15 ingrédients différents, les risques qu'il y ait un ingrédient dangereux pour moi... en fait, augmente, etc. Et donc, je suis en vigilance constante et je peux même pas apprécier le moment. Et donc, voilà, C'est juste ça. Je pense que là-dessus, on pourrait améliorer grandement, en tout cas, l'information en fait, qu'il y a sur les plats.
Eh bien, on arrive à la fin de ce podcast spécial DFS 2023. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, mais également sous un lien unique, bento.me/FEC, bien sûr, ça sera dans les notes de l'émission. Vous y retrouverez les plateformes et également nos coordonnées si vous souhaitez nous joindre pour, pourquoi pas, être invité dans un prochain Frontaine Chronicles. Et je crois qu'on a fait le tour, Denis. Denis, est-ce que tu as le mot de la fin? Je t'en prie, vas-y.
HTMX.
Et sinon, on vous dit à la prochaine. Salut!
Salut!